André Comte-Sponville, bonjour.
Bonjour.
Alors, la politique vous passionne depuis longtemps et l'économie aussi?
Oui, la politique depuis beaucoup plus longtemps que l'économie, parce qu'au fond, pour moi, la politique, ça a commencé au début du mois de mai 1968. Pour moi, j'avais 16 ans, j'étais lycéen à Paris, en classe de seconde, et l'irruption de la politique et de la passion politique, parce qu'immédiatement, pour moi, comme pour des centaines de milliers de jeunes de mon âge à l'époque, la politique est devenue la grande affaire de ma vie. Il a fallu des années, voire quelques dizaines d'années, pour que je m'intéresse sérieusement à l'économie. Et d'ailleurs, rétrospectivement, force m'est de reconnaître que la passion politique m'a un peu aveuglé pendant des années sur l'économie. Autrement dit, j'ai pris pendant 10 ou 15 ans ma passion politique pour une compétence économique, ce qu'évidemment elle ne saurait être. Et il a fallu d'ailleurs que la passion politique retombe un peu, parce que la politique continue bien sûr de m'intéresser, mais n'est plus avec cette dimension passionnelle qu'elle avait pour moi quand j'avais 16 ou 20 ans. Il a peut-être fallu que la passion politique retombe un peu pour que la lucidité économique puisse advenir et que je prenne le temps de m'informer, d'abord de me former et éventuellement d'essayer d'y comprendre quelque chose.
Alors, en tant que philosophe, quelle réflexion vous inspire la crise financière que nous sommes en train de vivre?
Ben, écoutez, elle m'inspire d'abord plusieurs réflexions, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que j'ai publié un livre, donc c'était il y a 5 ans, je crois, en 2004, si mes souvenirs sont bons, donc ça s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?» dont je viens de republier une réédition augmentée d'une longue postface inédite, mais le texte lui est resté exactement le même. Or, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, quand ce livre est paru il y a 5 ans, il a été plutôt bien reçu dans les milieux économiques et économistes, mais au fond, on en avait assez peu parlé. La réédition que je sors aujourd'hui, alors que le texte est exactement le même, au contraire, a fait l'objet d'un nombre de comptes rendus, d'entretiens, d'articles dans la presse et dans les médias, tout à fait étonnant et extrêmement positif. Et ce qui me frappe, c'est le nombre d'économistes qui me disent maintenant « Votre livre était prémonitoire ». Le paradoxe, c'est que je n'y faisais aucune prévision, parce que comme je dis toujours aux économistes, l'avantage du philosophe par rapport à l'économiste, c'est que lui, le philosophe, n'a pas à faire de prévision. Pourquoi l'ont-ils trouvé prémonitoire? Parce que, au fond, la crise actuelle a bien davantage confirmé qu'infirmé la plupart des analyses, me semble-t-il, même si ça paraît modeste de le dire, que je proposais. Alors, sur quel point? Ben, d'abord, sur la dimension amorale du capitalisme. Parce que, finalement, le titre de ce livre, c'est « Le capitalisme est-il moral ?» avec un point d'interrogation. C'est une question, il faut donc répondre, et le livre répond « Non ». Voilà. Non, le capitalisme n'est pas moral, il ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement. Il fonctionne tout au contraire à l'intérêt personnel ou familial. Disons le mot, il fonctionne, le capitalisme fonctionne à l'égoïsme. L'égoïsme dilaté à la taille de la famille, comme je dis toujours, c'est-à-dire mes enfants d'abord, ma femme et moi ensuite, et puis les autres, on verra s'il reste quelque chose, si vous voulez. Bon, c'est comme ça. Bon. Donc le capitalisme fonctionne à l'intérêt personnel ou familial, il fonctionne à l'égoïsme, ça n'est pas du tout une réfutation du capitalisme. Parce que c'est au contraire ce qui explique que le capitalisme fonctionne si fort. Parce que justement, l'égoïsme est évidemment la principale force motrice en l'être humain. Donc le capitalisme n'est pas moral, il ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement, mais tout au contraire à l'intérêt et à l'égoïsme. Ça ne veut pas dire que le capitalisme soit immoral, parce qu'au fond, s'occuper de son intérêt et de l'intérêt de ses enfants, ça fait partie, si j'ose dire, des droits de l'homme. Aucune loi ne nous interdit d'être égoïste et au fond, c'est heureux, nous serions tous en prison. Bref, le capitalisme n'est pas moral, il n'est pas non plus en toute rigueur immoral, faute de pouvoir être moral. Il est, mais alors totalement, radicalement, définitivement amoral. Amoral en donnant au préfixe « a » son sens purement privatif. J'entends par là que la morale est sans pertinence aucune pour décrire ou pour expliquer quelque processus économique que ce soit. Alors sur cette dimension amorale du capitalisme, le moins qu'on puisse dire, c'est que la crise, effectivement, en offre une confirmation spectaculaire. Deuxième élément que la crise nous apprend, et que déjà je disais dans mon livre, c'est que le marché ou les marchés sont incapables de se réguler eux-mêmes d'une façon socialement ou moralement acceptable. Autrement dit, les ultralibéraux avaient tort. Ce qui voulait nous faire croire que les marchés, par eux-mêmes, en fonction de leur fameux mécanisme d'autorégulation, allaient éviter le pire et au contraire tendaient perpétuellement vers le meilleur, ben, on découvre que c'est pas vrai. Non pas qu'il n'y ait pas de régulation. La crise économique, d'ailleurs, est un processus de régulation. Sauf que ce processus de régulation aboutit à des catastrophes humaines, à des phénomènes socialement et moralement inacceptables. Troisième chose que cette crise nous apprend, c'est que non seulement l'économie n'est pas capable de se réguler suffisamment elle-même, mais la morale est tout aussi incapable de réguler l'économie. Autrement dit, si on avait compté sur la conscience morale des chefs d'entreprise pour améliorer le sort de la classe ouvrière, nous serions toujours au XIXe siècle et chez Zola. Si on comptait aujourd'hui sur la conscience morale des banquiers ou des traders pour éviter les crises financières, ben nous connaîtrions la crise financière que nous connaissons aujourd'hui. Alors là, ça devient intéressant parce que si l'économie est incapable de se réguler valablement elle-même et si la morale est tout aussi incapable de réguler l'économie, qu'est-ce qui reste? Eh bien, entre la puissance amorale de l'économie et la faiblesse de la morale, il ne reste que le droit et la politique pour apporter un certain nombre de limites externes au marché, un certain nombre de limites non marchandes au marché. Et au fond, c'était la conclusion de mon livre, encore une fois, 5 ans avant la crise, mais que la crise confirme largement. Je disais que plus on est lucide et sur l'économie et sur la morale, et spécialement sur la puissance de l'économie et sur la faiblesse de la morale, plus on est exigeant sur le droit et la politique. Autrement dit, c'était la conclusion de mon livre, nous avons besoin non pas de moins d'économie, non pas de moins de morale, mais nous avons besoin de davantage de politique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le retour des États. Et c'est pourquoi les économistes, en effet, dont certains peut-être avaient accordé au marché trop de confiance, avaient trop flirté avec l'ultralibéralisme, c'est pourquoi un certain nombre d'économistes aujourd'hui trouvent que ce livre, qui ne faisait aucune prévision, était pourtant en quelque chose prémonitoire.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette crise est venue renverser la tendance de la sacralisation du marché qui remplace aujourd'hui la religion, comme le dit Daniel Robert Dufour?
Oui, en partie, et en même temps, je crains qu'il n'aboutisse à l'inverse, c'est-à-dire à une diabolisation du marché. C'est-à-dire qu'entre le culte du veau d'or, comme je le disais là encore dans ce livre, c'est-à-dire effectivement l'adoration du marché, considérer que le marché a toujours raison. Alors, si on a toujours raison, on est Dieu. Considérer que le marché est tout puissant. Si on est tout puissant, on est Dieu. C'était bien sûr une illusion. Alors cette crise met fin au moins pour plusieurs années, peut-être pour quelques décennies, à cette illusion. Mais si c'est pour retomber dans la diabolisation antérieure, celle au fond de ma passion de jeunesse dans les années 60-70, pour dire que tout ce qui est marchand est coupable, ça serait tomber au fond de Carib en Sylla. Le marché n'est pas le bon Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas tout puissant, il n'est pas non plus le diable. Parce qu'au fond, le marché, ça sert à créer de la richesse. Et il faut rappeler que créer de la richesse, c'est la seule façon de faire reculer la pauvreté. Alors le marché à lui seul n'y parvient pas. Il faut aussi que l'État assure une politique de redistribution, de services publics, d'égalité des chances. Au fond, c'est ce qu'on appelle le modèle social-démocrate, qui est celui dans lequel moi je me reconnais le plus. Mais enfin, s'il n'y a pas de richesse produite, il y aura encore moins de richesses redistribuées, si vous voulez. Donc j'ai envie de dire, bien sûr, aux ultralibéraux, mais ça je dirais en un sens la crise a suffi à leur donner tort, c'est au moins un bon point, qu'ils ont tort d'adorer le marché. Le marché n'est pas le bon Dieu, mais j'ai envie de dire aussi, non seulement à l'extrême gauche, mais aussi à ce que je vois renaître avec un peu d'inquiétude au sein du Parti Socialiste, j'ai envie de leur dire, mais le marché pour autant n'est pas le diable. Au fond, si on essaye de prendre un peu de recul, il me semble qu'on avait fini par comprendre, y compris en France et y compris à gauche. Et Dieu sait qu'en France, à gauche, on a mis du temps à le comprendre. Mais enfin, on avait fini par comprendre, y compris en France, y compris à gauche, que l'État n'était pas très bon pour créer de la richesse. C'est pour ça que Lionel Jospin a privatisé toute une partie de ce qu'Alain Juppé n'avait pas réussi à privatiser. Reconnaissons qu'ils ont eu raison l'un et l'autre. Mais je disais dans ce livre qu'il serait temps de comprendre, y compris à droite, que le marché et les entreprises ne sont pas très bons pour créer de la justice. Seuls les États ont une chance d'y parvenir à peu près. Si bien qu'il n'y a pas à choisir entre le marché et l'État. Il faut sortir de cette vieille schizophrénie politique des années 70, début 80, où au fond, être de gauche, c'était être pour l'État contre le marché, et être de droite, c'était être pour le marché contre l'État, alors que tout ce que la gauche et la droite comportent d'intelligence dans notre pays, on finit par comprendre qu'il n'y a pas à choisir entre le marché et l'État, puisqu'on a besoin évidemment des deux. On a besoin du marché et de la liberté du marché pour créer de la richesse. On a besoin du marché pour tout ce qui est à vendre, et c'est évidemment très important. Et on a besoin de l'État pour tout ce qui n'est pas à vendre. La justice, la liberté, la dignité, la santé, et c'est évidemment essentiel.
Alors, est-ce que le retour de la morale, dont on parle si souvent aujourd'hui, a quelque chose à voir depuis 20 ans avec la chute du mur de Berlin ?
Oui, alors dans ce livre, c'est l'objet du premier chapitre, je m'interroge effectivement sur ce retour de la morale. Un retour de la morale, pour une part, dans le discours. Ça ne veut pas dire que les gens soient davantage moraux aujourd'hui que ne l'étaient leurs parents ou leurs grands-parents. Ça veut simplement dire que de morale, on parle aujourd'hui davantage qu'il y a 20 ou 30 ans. Et peut-être qu'on en parle d'autant plus que la morale fait en vérité davantage défaut dans la réalité des comportements humains. Ça n'est pas exclu, mais enfin, le fait est qu'on en parle et que ce retour de la morale au premier rang des discours, des médias est déjà un phénomène qu'il faut prendre en considération. Et je crois en effet alors que ce retour de la morale peut s'expliquer par trois causes principales. La première, qui relève de la brève durée, c'est ce que j'appelais dans mon livre le passage d'une génération à une autre, disons de la génération du tout politique, les 68ards, à la génération du tout moral, ce que Laurent Geoffrin dans Libération il y a 20 ans appelait la génération morale, les années 80-90, le droit de l'homisme, qui ont eu tendance à mettre la morale, l'humanitaire, les droits de l'homme au premier plan, et donc à accorder à la politique en tant que telle moins d'importance. Il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais jeune, mai 68 et la suite, nous pensions que la politique suffisait à tout et qu'on n'avait pas besoin de morale puisque la politique en tenait lieu. Beaucoup de jeunes dans les années 80-90 avaient tendance à penser au contraire que c'était les droits de l'homme, l'humanitaire qui suffisait à tout et qu'on n'avait plus besoin de politique puisque les droits de l'homme et l'humanitaire en tenaient lieu. C'était deux erreurs. On avait tort en 68 et après de penser que la politique pouvait tenir lieu de morale. On a eu tort dans les années 80 ou 90 de penser que la morale, l'humanitaire, les droits de l'homme pouvaient tenir lieu de politique. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, celle que vous évoquiez, c'est en effet l'effondrement du bloc soviétique, la chute du mur de Berlin, pour prendre le phénomène emblématique. Quel rapport avec le retour de la morale ? Le rapport me paraît être le suivant. C'est qu'au fond, pendant toutes les années de guerre froide, puis de coexistence pacifique, le capitalisme, l'Occident libéral, le monde libre, comme on disait, expression qui a d'ailleurs symptomatiquement disparu du vocabulaire contemporain. Le capitalisme, l'Occident, le monde libre pouvaient se sentir moralement suffisamment justifiés par leur opposition au système communiste. J'entends par là que pour tous ceux, alors qui étaient plutôt à droite qu'à gauche, mais pour tous ceux aux yeux desquels le communisme, le collectivisme, le totalitarisme, c'était le mal absolu, eh bien, l'Occident libéral, le capitalisme, le monde libre, se trouvait suffisamment justifié par son opposition à ce mal absolu. Que l'Occident était beau sous Brejnev. Manque de chance, il n'y a plus de Brejnev. Pour faire ressortir par différence la radieuse jeunesse et splendeur de notre civilisation. Si bien que le triomphe du, entre guillemets, triomphe du capitalisme n'a d'égal que son désarroi. Et le soupçon naît qu'il est vaincu pour rien. À quoi bon vaincre quand on ne sait pourquoi vivre ? Si bien que faute d'avoir cette justification négative que son adversaire lui offrait comme sur un plateau, le capitalisme est contraint de chercher une autre justification, qui ne peut guère être cette fois faute d'une alternative à sa mesure, faute d'un autre système crédible, qui ne peut guère être qu'une justification positive, que le capitalisme ne peut guère trouver qu'en son sein, du côté d'un certain nombre de valeurs, de règles, de principes, d'idéaux, bref, du côté d'une certaine morale. Et c'est ainsi que l'effondrement du bloc soviétique et la crise du politique nous renvoient l'un et l'autre à ce retour de la morale. Troisième explication, très rapidement, le déclin des grandes religions. Parce qu'au fond, pendant 2000 ans d'Occident chrétien, à la question « que dois-je faire ?», qui est la question morale, à la question « que dois-je faire ?», pendant 2000 ans, au fond, c'est Dieu qui répondait. Par ses prêtres, par ses commandements, par son Église. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle au fond la laïcisation du monde, voilà qu'aujourd'hui, à la question « que dois-je faire ?», Dieu ne répond plus. Ou voilà en tout cas que ses réponses deviennent socialement de moins en moins audibles, y compris, notons-le en passant, chez beaucoup de chrétiens pratiquants. Combien de chrétiens pratiquants tiennent vraiment à ce que leurs enfants se marient vierges? Combien de chrétiens pratiquants sont moralement opposés à la contraception? On en voit de moins en moins. Oui. Si bien que la question « que dois-je faire ?» Dieu ne répond plus, ou ses réponses deviennent socialement de moins en moins audibles, si bien que chacun est renvoyé à cette question « que dois-je faire ?» comme à sa question personnelle la plus intime, et qui n'en acquiert bien sûr que davantage d'importance. C'est pourquoi je disais dans ce livre que nous avons d'autant plus besoin de morale que nous avons moins de religion. Parce qu'il faut bien répondre à la question « que dois-je faire ?» quand Dieu n'y répond plus. Nous avons d'autant plus besoin de morale que nous avons moins de religion, et c'est bien pourquoi aujourd'hui nous avons terriblement besoin de morale. Parce qu'au fond, on n'a jamais connu, depuis que l'humanité existe, ou en tout cas depuis qu'on a des traces historiques, depuis le début de l'histoire, on n'a jamais connu une société aussi peu religieuse que la nôtre. On n'a jamais connu une société à ce point laïcisée dans ses profondeurs que la nôtre, et surtout que l'Europe occidentale. Si bien que s'il est vrai, comme je vous disais, que nous avons d'autant plus besoin que nous avons moins, d'autant plus besoin de morale que nous avons moins de religion, il faut en conclure que nous avons besoin de morale aujourd'hui, davantage que cela n'était jamais arrivé depuis au moins 2500 ans. Et vous voyez que ces trois raisons, le passage d'une génération à une autre, de la génération du tout politique à la génération du tout moral, l'effondrement du bloc soviétique, la mort sociale de Dieu, si l'on peut dire, tout cela contribue à expliquer que la question morale prenne aujourd'hui une importance cruciale. L'erreur serait de croire qu'elle va résoudre tous les problèmes. Autrement dit, de même qu'il était bien sûr absurde de penser il y a 30 ou 40 ans que la politique allait résoudre tous les problèmes, y compris moraux, y compris existentiels, y compris spirituels. De même, aujourd'hui, il serait bien sûr totalement illusoire de croire que la morale ou d'ailleurs la spiritualité pourrait résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas à choisir entre la morale, la politique, la spiritualité. On a besoin évidemment des trois.
Alors, dans Le capitalisme est-il moral, vous convoquez Pascal et Marx et vous citez beaucoup Alain. Que nous apprennent ces trois philosophes si différents sur la morale de l'économie?
Alors c'est peut-être, c'est une rencontre un peu singulière en vérité, hein, parce que ce sont trois auteurs évidemment très différents, qu'on associe peu, mais vous avez raison, je parle des trois dans mon livre, et au fond pour moi ce sont trois maîtres de lucidité, qui nous apprennent à obéir sans croire, comme dirait Alain. Parce qu'au fond le républicain laïque qui était Alain voit bien que dans une démocratie il faut obéir au pouvoir. Mais surtout ne pas adorer le pouvoir, surtout ne pas croire ses dirigeants, refuser les privilèges de l'union sacrée, comme dit Alain, obéir mais en résistant. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Eh bien chez Pascal, on trouve la même chose. Au fond, il m'arrivait de dire à mes étudiants à la Sorbonne, du temps où j'enseignais encore, ce que j'aime chez Pascal, c'est qu'il ne croit en rien. Alors, sauf en Dieu, bien sûr, mais son jansénisme radical fait que sa foi en Dieu l'a protégé contre toutes les idolâtries. Il n'a jamais adoré la science, au contraire de ce que fait Descartes parfois. Il n'a jamais adoré, bien sûr, l'État, le pouvoir, le progrès, l'homme, surtout pas. Il y a un anti-humanisme chez Pascal qui fait partie de sa lucidité anthropologique, que l'homme est creux, et que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. C'est ça l'anti-humanisme pascalien. Autrement dit, Pascal ne croyait qu'en Dieu, alors sa foi en Dieu, je ne la partage pas, mais j'admire ce que cette foi concentrée sur Dieu a produit comme incrédulité, comme liberté d'esprit pour tout le reste. Et puis Marx est un maître de lucidité aussi à sa façon, parce qu'il nous explique, au moins en partie, parce qu'il nous explique, que les hommes sont mus par l'intérêt et non pas par les bons sentiments. Et non pas par les idées. Et d'ailleurs, c'est à mon avis un véritable problème du marxisme. C'est que Marx, me semble-t-il, n'avait pas les moyens anthropologiques de sa politique. Parce qu'au fond, quand il nous dit que les hommes sont mus par l'intérêt, mais ça explique très bien la force du capitalisme, qui est justement une façon d'exploiter, si j'ose dire, la course de chacun à son intérêt propre. Mais si les gens sont mus par leur intérêt, comment faire une société communiste? Alors bien sûr, on peut dire que c'est l'intérêt de tout le monde que règne la justice, la paix, la liberté, l'abondance, soit, mais enfin, si la maxime du communisme c'est à chacun selon ses besoins, et non pas à chacun selon son travail, ce qui est la maxime du socialisme et pas du communisme. pourquoi est-ce que je devrais continuer à travailler plus que les autres, ou même autant que les autres, si, au bout du compte, j'aurais tout ce qu'il faut pour satisfaire mes besoins? Bref, mon inquiétude vis-à-vis de Marc, c'est que c'est immense génie, par ailleurs, hein, pour qu'il y ait à la fois de l'admiration et de la sympathie, mais pour dire la chose, pour aller au plus court, mon inquiétude, mon soupçon, c'est que c'est justement parce que Marx a raison sur l'homme, sur l'égoïsme foncier de l'être humain, nous sommes mus par l'intérêt, qu'il avait tort sur le communisme. Parce qu'au fond, pour que le communisme ait une chance de réussir, il faudrait que les êtres humains cessent d'être égoïstes. Il était donc inévitable que le communisme échoue. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire après coup, bien sûr, mais comme on est après coup, autant en profiter. Il était donc inévitable que le communisme échoue, puisque les humains sont égoïstes, presque tous, presque toujours, et mettent presque toujours, à l'échelle des grands nombres, leur intérêt personnel plus haut que l'intérêt général. Il était donc inévitable aussi que le communisme devienne très vite totalitaire, puisqu'il a bien fallu imposer par la contrainte ce que la morale très vite s'est avérée incapable d'obtenir. Si bien que c'est parce que Marx avait anthropologiquement raison. Économiquement raison sur le capitalisme qui fonctionne en effet à l'intérêt, les eaux glacées du calcul égoïste, disait Marx. C'est parce que Marx avait anthropologiquement raison et au moins partiellement économiquement raison qu'il avait, me semble-t-il aujourd'hui, politiquement tort. Alors ça ne retire rien à son génie, ça ne retire rien à tout ce qu'il nous apprend, mais ça veut dire que nous devons tenir compte, bien sûr, de ce qu'il apporte de lucidité, mais aussi de l'échec ultime, finalement, sur lequel ça a débouché.
Alors pour rester avec Marx, vous avez été communiste dans votre jeunesse, vous êtes un fin connaisseur donc de la pensée de Marx. Est-ce que c'est lui qui vous a donné une conscience politique et, avec Montaigne, vous a appris à philosopher ?
Non, alors d'abord j'ai lu Montaigne bien plus tard que Marx, et ça c'est tout le paradoxe de cette génération-là, hein, où à 18-20 ans je connaissais Marx très bien, il faudra que j'approche de la trentaine pour commencer à lire une page des essais de Montaigne. Hein. Mais bon, c'est les années 60-70, y compris dans l'éducation nationale et dans le supérieur, qui veut ça. Ils m'ont appris des choses différentes. Marx m'a effectivement, alors c'est pas lui qui m'a poussé à faire de la politique. C'est au contraire parce que je faisais de la politique, j'allais dire évidemment à l'extrême gauche, et communiste un temps, mais avant j'étais trotskiste, maoïste, il m'arrive de dire en tournant de boutade, j'étais anarchiste 3 jours, trotskiste 8, maoïste 15, avant de comprendre au bout de quelques mois qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir dans toutes ces chapelles-là, et à devenir effectivement communiste, membre des jeunesses communistes, de l'Union des étudiants communistes, et puis pendant 10 ans membre du Parti communiste, parce qu'au fond, ça me paraissait la seule façon sérieuse de faire une politique marxiste. Mais donc c'est pas parce que j'étais marxiste que j'ai fait de la politique, c'est au contraire parce que je faisais de la politique et passionnément et intensément et à l'extrême gauche que je me suis mis à lire Marx et à y trouver beaucoup de plaisir. Encore une fois, Marx est parti pour moi des penseurs tout à fait importants. Et puis aussi parce que philosophiquement, dès lors que là, j'ai 17-18 ans, tout ça est à peu près contemporain, j'ai perdu la foi, ce qui était l'objet d'un entretien précédent que nous avions eu. Ben, je me suis retrouvé finalement athée, matérialiste, comme on dit en philosophie. Et de ce point de vue, quand on est matérialiste, comme je le suis, Marx est évidemment un penseur tout à fait incontournable. Ce que Montaigne m'a appris, c'est tout à fait autre chose, c'est à la fois les limites de la philosophie. Parce qu'il y a un fond de scepticisme indépassable, au fond qui a raison, les matérialistes ou les idéalistes, les athées ou les croyants. Mais personne n'en sait rien. Si on savait, on serait tous croyants ou bien tous athées, tous matérialistes ou bien tous idéalistes. Si bien que c'est justement parce que nous ne savons pas ce qu'il en est de l'absolu, de la vérité ultime, que la philosophie est ce qu'elle est, incertaine, conflictuelle, douteuse toujours en quelque chose. Ça n'est pas une raison pour l'aimer moins. Il faudrait aimer beaucoup la certitude et très peu la pensée pour cesser d'aimer la philosophie sous prétexte qu'il n'y a pas de philosophie certaine. Voilà ce que Montaigne m'a appris contre le dogmatisme marxiste, entre autres, mais aussi bien en vérité contre le dogmatisme spinoziste, pour évoquer un autre auteur que j'ai beaucoup travaillé, que j'admire toujours beaucoup. Ce que Montaigne m'a appris, au fond, c'est à aimer davantage la vérité que la certitude. et peut-être même encore davantage la quête de la vérité que le sentiment toujours en quelque chose illusoire de la posséder. Et donc voilà, en quelque chose, on pourrait dire que Montaigne m'a un peu guéri de mon dogmatisme marxiste, m'a un peu guéri de mes illusions à la fois humanistes et politiques, rêver d'une société sans classe, sans État, société d'abondance, de paix, de liberté. Maintenant, ça me fait penser à la chanson de Jules Vigneault, vous savez, quand les soldats s'aimeront d'amour, quand les hommes s'aimeront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours et nous, nous serons morts, mon frère. Oui. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le paradis. Marx nous l'annonçait pour dans quelques siècles. Montaigne m'a appris à n'y plus croire et à m'en passer agréablement. Parce qu'au fond, il faut quand même aimer très peu la vie. Sur cette terre pour rêver d'une autre vie. C'est l'un des reproches que je peux faire à la religion. Et j'ai envie de dire à certains marxistes qu'il faut vraiment aimer très peu la vie dans cette société pour rêver d'une société complètement différente. Alors, que cette société soit injuste, imparfaite, ça va de soi, chacun le sait bien. C'est pourquoi il faut continuer à faire de la politique. Mais si vous croyez qu'on va remplacer cette société imparfaite par une société parfaite ou à la limite on n'aurait même plus besoin de faire de politique, alors là je crois effectivement que vous rêvez.
Ça veut dire que c'est pour ça que vous avez pris vos distances avec le marxisme?
Alors il y a eu ça, il y a eu une évolution philosophique alors qui a été aussi surdéterminée, comme il dirait lui-même, par l'effondrement personnel de Louis Althusser. C'est-à-dire moi j'étais un normal sub, j'étais l'élève, l'ami, puis plus tard l'ami très proche de Louis Althusser, et j'assistais fasciné à la réduction de son œuvre comme d'une peau de chagrin philosophique. C'est-à-dire que si vous lisez aujourd'hui pour Marx, ou lire Le Capital, vous avez une pensée très ambitieuse. Le marxisme est une nouvelle science, la philosophie est lutte de classe. La philosophie est théorie de la pratique théorique, autrement dit le discours qui veut dire la vérité de tous les discours. Et puis à la fin, l'idée de scientificité se réduit. L'idée de théorie des pratiques théoriques devient une idée théoriciste, comme l'a dit Althusser. Et finalement, la philosophie, c'est quoi? C'est lutte de classe dans la théorie. C'est une certaine façon de faire de la politique. Au fond, c'était que ça. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire des études de philosophie? Et si bien qu'il y a eu, oui, la lecture de Marx, la relecture de Marx, la critique par Montaigne et puis par d'autres. Il faudrait évoquer Hume, Pascal aussi, qui en un sens est un maître à sa façon de pyrrhonisme, comme il dirait. Il y a eu cette espèce de négativité althusserienne, la façon dont l'œuvre d'Althusser s'auto-détruisait sous nos yeux, avant par ailleurs le drame que chacun connaît, mais qui a accompagné bien sûr ce mouvement. Et puis il y a eu, il faut bien le dire, l'échec patent, avéré, une nouvelle fois, renouvelé, et spectaculaire pour finir, du communisme réel, ou du socialisme réel, comme on disait, c'est-à-dire des pays de l'Est. Parce que là, c'est ça qui est très différent, je pense, entre ma génération et la génération de ceux qui ont adhéré au Parti communiste dans les années 30, le Front populaire, ou pendant la résistance, ou à la libération. C'est que ceux qui le décrivent, par exemple, mon ami décédé aujourd'hui, Jean Toussaint de Santy, ou sa femme, Dominique de Santy, qui sont deux amis proches, pour moi, ils décrivent au fond un enthousiasme. Vous voyez, on adhérait au Parti communiste, on était sûr que l'URSS était la patrie du socialisme, on y croyait, que Staline était un type formidable, le plus grand savant des temps modernes, etc. Quand on adhérait, comme moi, au Parti communiste en 1970, on savait bien que l'URSS, c'était pas le paradis. On n'avait pas envie d'idolâtrer Brejnev. Vous croyez bien qu'on n'avait aucune sympathie pour ce vieillard ennuyeux et bureaucrate, si vous voulez. C'est ce que j'ai appelé parfois la génération des malgré tout. On parle de la génération des malgré nous en Alsace. Moi, j'appelle la génération des malgré tout, c'est-à-dire ceux qui adhéraient au Parti communiste, non pas parce qu'ils se faisaient plein d'illusions sur l'URSS, mais parce qu'ils avaient le sentiment que la seule façon de combattre et le capitalisme à droite et le stalinisme à gauche, si tant est que le stalinisme soit à gauche, c'était justement d'adhérer au Parti communiste pour essayer, comme nous le disions un peu naïvement, de le transformer de l'intérieur et d'obtenir un parti communiste, révolutionnaire, démocratique et non stalinien. Alors, qu'on ait finalement échoué, je suis le premier à le reconnaître, ça ne veut pas dire qu'on n'avait aucune chance de réussir, parce que c'est facile après coup de dire qu'on était parfaitement idiot. Après tout, ça aurait pu marcher peut-être, en tout cas ce qui est clair, c'est que ça a échoué. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu une critique philosophique du marxisme. Il est clair que je ne suis plus marxiste parce que, entre autres, je ne suis plus dogmatique, et là Montaigne en effet a joué un rôle. Il y a eu l'influence presque négative, presque dissolvante, mais en même temps fascinante de ce qu'on pourrait appeler l'acide althusserien, si vous voulez. Et puis il y a eu l'échec patent, spectaculaire, l'effondrement ultime du bloc soviétique. Si bien que moi, j'ai quitté le Parti communiste en 80 parce que je savais bien que je ne voterais pas pour Georges Marchais et que donc je ne pouvais pas rester dans ce parti-là, Georges Marchais en 81 au présidentiel, mais j'étais en vérité sur des positions d'opposition interne dès 1977, c'est-à-dire qu'après 7 ans d'ailleurs de militantisme heureux, c'est-à-dire que j'ai adhéré aux jeunesses communistes en 69, au Parti communiste en 70, et j'ai eu beaucoup de responsabilités, surtout à l'UEC, mais pendant 7-8 ans de militantisme, j'étais un militant heureux parce que j'avais le sentiment, au fond, que l'histoire en général, et le Parti communiste français en particulier, avançait dans le bon sens. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'euro-communisme, un communisme plus démocratique, plus ouvert, moins bureaucrate qu'un autre. Ça peut être culminé, en gros, dans le 22e congrès, et puis c'est venu se rompre, finalement, à la fois avec la rupture de l'Union de la gauche, dans laquelle le Parti communiste français ne portait pas toute la responsabilité, mais portait une bonne part de la responsabilité, et puis surtout l'invasion soviétique en Afghanistan et l'approbation par le Parti communiste français de cette invasion. Au fond, moi, j'avais adhéré au Parti communiste en 70 parce que le Parti communiste avait condamné l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Je l'ai quitté parce que le Parti communiste avait approuvé l'intervention soviétique en Afghanistan. Il y avait une espèce de cohérence de ce point de vue dans mon parcours, mais la cohérence n'a jamais suffi à dissimuler un échec. Autrement dit, voilà, c'est ma première aventure politique s'est soldée par un échec que je reconnais bien volontiers, échec qui n'a pas été d'ailleurs tout à fait total, puisque un an après que je quitte le Parti communiste, la gauche arrivait au pouvoir, avec d'ailleurs des ministres communistes en 1980, et sur une base assez proche, au fond, de ce que nous désirions, nous, qui était au fond le programme commun avec ces naïvetés, le problème. Et ça nous ramène au tout début de notre entretien sur mon incompétence économique d'alors. Le problème, c'est que dès 83, tout ce que la gauche française comporte d'intelligence avait compris qu'on allait dans le mur. C'est ce qu'on appelait... plus que l'expression, non pas la rupture, qui est une expression sarkozyste, la parenthèse de la rigueur, je crois que c'était qui devait être une parenthèse, qui n'a pas été une parenthèse. C'est-à-dire qu'en 83, Delors finit par faire comprendre à Mitterrand que le programme commun est un mauvais programme, que si on continue à l'appliquer, on va faire dévaluation sur dévaluation, la France va devenir un pays de pauvres, bref, il faut changer. Et c'est là où je me suis dit, après tout, moi qui me suis battu pour ce programme, maintenant on m'explique que c'est un mauvais programme. Tout d'un coup, je réalise qu'en effet, je disais que c'était un bon programme sans rien ni savoir, parce que je ne connaissais rien à l'économie. Et je me suis dit, après tout, j'ai peut-être péché non seulement par dogmatisme, mais peut-être un peu par fatuité, faisant semblant de connaître, notamment en économie, des choses que d'évidence, je ne connaissais pas. Et du coup, je suis devenu beaucoup plus humble et j'ai commencé, ça nous ramène encore au tout début de notre entretien, à lire les économistes avec beaucoup d'intérêt. Parce que l'économie, c'est pas de la philosophie, c'est une science humaine. Alors, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique. Bien sûr, c'est pas une science exacte, mais c'est une science humaine dans laquelle il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir, beaucoup de données empiriques et en même temps beaucoup d'humanité. Parce que ce dont parle l'économie, malgré tout, c'est de comportements humains. Et ça a été une nouvelle façon et une nouvelle raison de m'éloigner effectivement de mon marxisme de jeunesse. Pardon d'avoir été long, mais c'est que tout ça est un peu embrouillé et tout ça se tient. Et si on veut essayer d'être un peu fidèle à ce qui s'est passé, il est difficile de le résumer en quelques mots.
Puis finalement, vous vous êtes rangé à un principe de réalité. Alors, pourquoi vous avez souhaité ajouter en 2009 une postface à la première édition du « Capitalisme est-il moral » paru, on l'a dit tout à l'heure, en 2004?
Oui, j'ai écrit cette postface donc avant la crise, enfin il y a un an, peut-être au tout début de la crise, mais ce n'est pas du tout un texte sur la crise. C'est une réponse à quelques objections. Vous savez, dans le chef-d'œuvre immortel que sont les méditations de Descartes, il y a deux parties, il y a les 6 méditations métaphysiques de Descartes, et puis il y a une deuxième partie qui s'appelle « Réponse aux objections », dans laquelle Descartes répond à un certain nombre d'objections que lui ont fait des gens tout à fait importants, ne serait-ce que Hobbes, excusez du peu. Eh bien voilà, sans comparer mon livre aux méditations de Descartes, mais j'avais envie, moi aussi, de répondre à quelques objections. Et c'était d'autant plus important que ce livre, « Le capitalisme est-il moral ?», je ne l'ai pas encore dit et j'aurais dû. C'est d'abord une conférence. C'est-à-dire que c'est un cas très particulier. Je crois que c'est le seul de mes livres que j'ai d'abord improvisé à l'oral, mais pendant des dizaines de fois, parce que c'est une conférence que j'ai faite des dizaines de fois dans le monde de l'entreprise, alors avec quelques notes, mais qui n'étaient pas du tout rédigées, et dont j'ai entrepris de faire un livre après coup, mais le livre n'étant au fond que la transcription de la conférence et des questions qu'on me posait le plus souvent et des réponses que j'y faisais. Or, ces conférences, je ne les faisais pas à la Sorbonne, je ne les faisais pas dans un café philo, je les faisais le plus souvent là où les gens me demandaient de le faire, c'est-à-dire dans des écoles de commerce, dans des écoles de management, dans une entreprise, pour les cas de cette entreprise, devant une association de chefs d'entreprise, bref, dans le monde de l'entreprise, en gros, disons en gros, de droite, pour lesquels il était évident que le capitalisme est moral. Et donc moi je venais avec mes gros sabots, je leur disais non, pas du tout, le capitalisme n'est pas moral, il est amoral. La plupart me trouvaient beaucoup trop sévère avec le capitalisme. Et puis le livre sort, donc il est lu à la Sorbonne, il est lu dans des milieux extérieurs à l'entreprise. Il est lu par mes collègues et par plusieurs de mes amis. Quand je dis que le capitalisme est amoral, eux me trouvent pas assez sévère avec le capitalisme. Parce qu'ils me disent, non, le capitalisme n'est pas amoral, il est clairement immoral. Si bien que ce livre, au fond, a été écrit dans sa première version pour répondre à des gens de droite, en gros, qui pensaient que le capitalisme était moral, et pour leur montrer qu'ils avaient tort, et la postface est écrite m'adressant à des gens plutôt de gauche, cette fois, qui pensent que le capitalisme est immoral, pour leur montrer qu'ils ont tort aussi. Encore une fois, mon idée, c'est que le capitalisme n'est pas moral, il n'est pas non plus immoral, il est amoral. Et c'est ainsi que, voilà, cette postface corrige un petit peu l'orientation première, mais qui était liée simplement au public auquel je m'adressais. Quand on fait une conférence, forcément, le public auquel on s'adresse influence inévitablement le contenu de ce qu'on y dit. Et puis, plus concrètement, il s'agit de réponses aux objections de trois philosophe et non des moindres, puisqu'il s'agit de Marcel Conche, mon maître à la Sorbonne et mon ami, évidemment. Il s'agit de Lucien Sèvres, qui est l'un des plus grands philosophes marxistes de ce siècle. Et puis, il s'agit d'Yvon Quignou, alors qui est un ami, un philosophe de mon âge, mais qui est aussi l'un des très bons philosophes marxistes d'aujourd'hui. Si bien que répondant à ces trois très bons philosophes, dont deux sont expressément marxistes et dont le troisième, Marcel Conche, est très proche à bien des égards de Marx, au moins sur ces questions-là, ben ça m'a permis aussi de m'expliquer une nouvelle fois avec le grand Karl, si j'ose dire. Et je dis une nouvelle fois parce que je l'avais fait dans mon tout premier livre, qui était Le mythe d'Icare. Il y avait un chapitre, qui était le deuxième chapitre, donc publié en 84, j'avais 32 ans, c'est pas hier. Il y avait un long chapitre, je crois, de plus de 100 pages, où déjà je me confrontais de très près avec Marx. Mais depuis le mythe d'Icare, donc depuis 1984, j'avais pas eu l'occasion d'y revenir, et j'étais content, 25 ans après, de revenir sur cette question et de m'expliquer à nouveau, et avec Marx et avec la tradition marxiste.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Enfin, je parle de reproches parce que visiblement, ils ont été un peu secoués par la lecture. Donc, Marcel Conche, Lucien Sèvres et Yvon Quignou, j'ai l'impression qu'ils avaient une espèce de reproche global sur votre analyse des rapports entre Marx, la morale et l'économie.
Marcel Conche est très particulier parce qu'il le dit lui-même et il apprécie beaucoup les analyses de ce livre. Son objection était, puisque vous reconnaissez que le capitalisme est injuste, comment pourrait-il ne pas être immoral? Alors, je lui réponds que deux choses. Pour être injuste, il suffit de ne pas correspondre à notre idéal de justice, et donc la vie est injuste. Quand un enfant a un cancer, c'est évidemment injuste. Quand il y a un tsunami, c'est évidemment injuste. Qui va dire que le tsunami est immoral? Mais non, pour être moral ou immoral, il faut avoir une volonté, une conscience, il faut être un être humain. Et Marcel Conche, dans un livre à paraître, qui est le tome 4, je crois, de son journal étrange, comme il dit, me donne tout à fait raison sur ce point. Et vous verrez dans le prochain livre de Marcel Conche qu'il y a un échange de lettres entre Marcel et moi. Lucien Sèvres et Yvon Quignou, c'est différent, parce que là, se réclament vraiment de Marx, et ce qui m'amuse et qui en quelque chose me réjouit, c'est que leurs deux reproches sont rigoureusement symétrique. C'est-à-dire qu'ils me reprochent l'un et l'autre, et tous les deux se réclament de Marx, deux choses parfaitement inverses. Lucien Sèvres me reproche d'avoir osé dire que Marx voulait moraliser l'économie, voire que Marx voulait ériger l'économie en morale. Autrement dit, Lucien Sèvres me reproche d'avoir une lecture moralisante de l'œuvre de Marx et de ne pas voir que la pensée de Marx est exclusivement scientifique, que la morale n'a rien à voir là-dedans. Alors qu'Yvon Quignou, au contraire, me reproche d'avoir sous-estimé dans l'œuvre de Marx l'importance de la morale et de ne pas avoir vu que pour Marx, l'économie était certes une science, mais une science morale par essence. Alors, ça ne suffit pas à prouver que j'ai raison, parce qu'au fond, avoir une position un peu centrale contre deux adversaires qui vous attaquent de deux côtés opposés, ça ne suffit pas à prouver qu'on a raison, mais ça montre au moins la complexité du problème. Ben, je vais vous dire le paradoxe, parce qu'au fond, Yvon est un ami, Lucien Sèvres, je ne l'ai jamais rencontré, et puis c'est Lucien Sèvres qui m'attaque le plus vigoureusement, le plus polémiquement, quoique de façon en vérité très courtoise et très, très humaine, hein, il n'y a pas de problème personnel de ce point de vue. Mais le paradoxe, c'est que sur le fond, je me sens plus proche de Lucien Sèvres, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, l'erreur, de mon point de vue, de Marx, c'est d'avoir prétendu faire une science. Et que la science, je suis d'accord avec Lucien Sèvres, en tant que telle, n'a rien à voir avec la morale. Sauf que le paradoxe, c'est que, et c'est ça que je réponds à Lucien Sèvres, c'est que cette science de l'économie, cette science de l'histoire que Marx prétend avoir inventée, ou que les marxistes prétendent que Marx a inventée, parce que Marx était au fond plus réservé sur le sujet, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à démontrer, c'est ce que Marx dit, que le communisme est inévitable. Or, qu'est-ce que c'est que le communisme? Ben, c'est exactement ce que la morale peut désirer de mieux. C'est-à-dire une société d'égalité, de justice, de liberté, de paix. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Si bien qu'il y a une espèce d'harmonie préétablie, tout à fait étrange, entre ce que la morale requiert, l'abolition du capitalisme, l'instauration du communisme, et ce que la science économique annonce. Et Lucien Sèvres n'a pas l'air étonné que la morale et la science disent exactement la même chose. Mais imaginez qu'un biologiste vous dise « la biologie a démontré que nous sommes immortels ». Imaginez qu'un psychologue vous dise « la psychologie a démontré que le bonheur est inévitable ». Imaginez qu'un sociologue vous dise « la sociologie a démontré que la justice et l'harmonie sont inévitables ». Vous diriez « mais il débloque complètement ». Parce qu'en vérité, ce que la biologie nous apprend, ce n'est pas du tout ce qu'on désirerait, c'est exactement le contraire. On désirerait ne pas mourir, et ce que la biologie nous apprend, c'est qu'on meurt nécessairement. On désirerait être heureux, et ce que la psychologie nous apprend, c'est que tout bonheur est fragile, incertain, improbable. On désirerait vivre dans une société de paix, de justice, d'harmonie, et ce que la sociologie nous apprend, c'est que toute société est l'objet de tensions, de conflits, de déchirements, parfois. Hein. Pourquoi est-ce que cette science, parmi d'autres qu'est l'économie, aurait ce curieux privilège de correspondre exactement à nos désirs les plus faux? Si bien que j'accorde à Lucien Sèvres très volontiers, je le dis déjà, que l'économie en tant que telle n'a pas à se préoccuper de morale, mais que du même coup, pendant que la science en tant que telle n'a pas à se préoccuper de morale, mais que du même coup, quand une prétendue science aboutit à tenir un discours qui annonce le triomphe ultime de la morale, il y a lieu de suspecter que ça n'est plus un discours scientifique, mais que c'est un discours idéologique. Et au fond, effectivement, ce que je crois aujourd'hui, c'est que Marx, avec tout son génie, n'a pas inventé une nouvelle science, il a inventé une nouvelle idéologie. Cette idéologie s'appelle le marxisme. Alors, c'est pas très sévère de dire ça, parce qu'au fond, inventer une nouvelle idéologie, tout le monde n'en est pas capable, on fait pas ça tous les matins, mais l'important, c'est de ne pas confondre ce qui relève de la science et ce qui relève de l'idéologie.
Alors, vous concluez en disant que l'apolitisme est une faute. Alors, plus de politique, oui, mais l'histoire semble aller pour l'instant en sens inverse.
Ben, ça dépend de quoi on parle. Parce que d'un côté, c'est vrai que cette crise économique a entraîné ce qu'on a beaucoup appelé, notamment au moment du G20, le retour des États. Et c'est vrai que l'ultralibéralisme est en déclin, c'est tant mieux. La politique reprend un peu du poil de la bête. Le discours volontariste, comme on dit, de Sarkozy, quoi qu'on puisse penser du personnage pour lequel je n'ai pas voté, mais s'est senti davantage en phase, finalement, avec les exigences du moment que le discours plutôt ultralibéral que le même Sarkozy tenait, au fond, pendant sa campagne électorale. Donc il y a un retour des États, c'est tant mieux. Il y a un certain retour de la volonté politique. Regardez aux USA, le Yes We Can, finalement, c'est une réaffirmation de Barack Obama, bien sûr, c'est une réaffirmation de la volonté politique. Et de ce point de vue, c'est une très bonne nouvelle, non seulement parce que Barack Obama a le charisme, et si je veux dire la couleur que l'on sait, ça fait deux raisons de se réjouir de son élection, mais aussi parce qu'on a le sentiment que le peuple américain, sous sa direction, se réconcilie avec une vision à la fois moins unilatérale de la politique et de l'histoire du monde, mais aussi une conception plus ambitieuse de la politique qui explique que la politique, ça ne sert pas seulement à faire du business. Donc il y a ce retour de la politique et en même temps, il y a un discrédit de la politique, spécialement en France. Je disais à la télévision récemment, j'étais invité chez Michel Field et je disais que chaque fois que je vois Barack Obama à la télévision, je commets le péché d'envie. Non seulement parce que quand je vois ce président avec cette classe invraisemblable, ce charme, ce charisme et ce calme, et que je le compare à un autre président, effectivement je suis un peu envieux, mais aussi parce que j'envie ce peuple américain qui retrouve aujourd'hui, ce n'est pas le cas du temps de Bush, bien sûr, mais qui retrouve aujourd'hui le goût de l'histoire, le goût de l'action commune, le goût de la politique. Si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, retour des États peut-être, mais quand je vois, regardez les taux qu'on nous annonce d'abstention pour les prochaines élections européennes, si vous voulez, ça veut dire que voilà, il y a un retour des États, il n'y a pas un retour des citoyens. Il y a un discrédit de la politique, alors même qu'il y a besoin de politique peut-être plus que jamais. Et c'est sans doute l'un des symptômes les plus inquiétants pour notre pays. Vous voyez, cette crise économique aura une fin, comme toute crise. Il y aura d'ailleurs d'autres crises après. C'est, l'histoire économique est ainsi faite. Il me semble que des fois, on s'inquiète un peu trop sur la portée économique de cette crise et pas tout à fait assez sur ce discrédit de la politique. Vous voyez, moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, parler un peu moins de morale, ou du moins garder la morale pour vous. La morale, c'est un discours très important s'agissant de sa propre vie. Mais comme je dis toujours, la morale n'est légitime qu'à la première personne, du singulier. Pour ce qui est des autres, parlons un peu moins de morale et un peu plus de politique. Ça n'est pas gagné. Là, je constate avec vous, effectivement, que la politique en France et peut-être en Europe, d'ailleurs, n'est pas sortie du discrédit qui est le sien. Je pense d'ailleurs que les hommes politiques ou les femmes politiques ne sont pas tout à fait sans responsabilité dans ce discrédit. Mais enfin, il faut rappeler que dans une démocratie, on a les hommes politiques qu'on mérite et que c'est aux citoyens de les choisir, de les élire et surtout de faire de la politique. Voilà. J'ai envie de dire, ne comptons pas sur le retour des États pour tenir lieu de retour des citoyens, parce que des États sans citoyens, ce ne sont plus que des monstres froids, comme disait Nietzsche. Ou des dictatures, ou de pures machines bureaucratiques. Pour faire de la politique, on a besoin non pas d'un État, l'État est l'enjeu de la politique, mais pour faire de la politique, on a besoin des individus, c'est-à-dire en l'occurrence, en effet, des citoyens.
André Comte-Sponville, merci.